Il y a aujourd'hui trois quarts de siècle qu'à la faveur de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, la Deuxième Guerre mondiale prenait fin. Un des grands totalitarismes du XXe siècle était mis hors d'état de nuire, tandis qu'un autre allait se déployer et perpétrer ses ravages pendant encore quelques 45 ans, pour ne s'en tenir qu'à l'Europe. Même s'il n'analyse aucun de ces deux mots en particulier, un petit ouvrage du philosophe Jacques Maritain aide, me semble-t-il, à réfléchir à la place que le mal peut prendre dans le cœur de l'homme, pourtant créé à l'image de Dieu. Ce petit ouvrage, publié en 1963, s'intitule « Dieu et la permission du mal ». Le mal dont il parle n'est pas le mal de nature, par exemple la pandémie dont nous souffrons actuellement. À strictement parler, ce mal de nature n'est objet, dit Maritain, ni d'une permission, ni d'une volonté proprement dite de Dieu. Tout au plus est-il admis par Dieu. Le mal dont il parle n'est donc pas le mal de nature, mais le mal moral, le mal qui découle d'une faute, on dirait aujourd'hui le mal provoqué par le péché. À propos de ce mal, Maritain parle notamment de ce qu'il appelle l'innocence absolue de Dieu. Il qualifie de certitude fondamentale, de roc auquel nous devons nous cramponner. Dieu est étranger au mal dont l'homme est capable. Vous me direz qu'il s'agit d'une évidence. Oui et non, parce que nous sommes capables de tenir cette vérité pour absolue, tout en soutenant, à l'instar de cet ami dont parle Maritain, professeur de renom et grand bibliste, que ce n'est pas si clair. Il y a quand même les expressions dont se sert si souvent la Sainte Écriture quand elle dit par exemple que Dieu a aveuglé Pharaon, qu'il a envoyé à tel ou tel un esprit de ténèbres, un esprit d'erreur, etc. C'est oublier, et en cela on n'insistera jamais assez sur le fait que l'étude de la Bible se travaille, c'est oublier les tournures propres aux langues sémitiques par lesquelles le texte biblique ne dit pas autre chose que « Dieu a permis que Pharaon soit aveuglé », « que Dieu a permis que tel ou tel esprit d'erreur trompe quelqu'un », etc. Dieu donc est innocent du mal que l'homme est capable de commettre, comme le XXe siècle, qui n'est hélas pas le seul, l'a montré, tragiquement. Et alors ? Ce qui est intéressant dans cette affirmation, après tout assez évidente, c'est qu'elle mène à une autre question, que Maritain traite aussi dans ce petit livre. S'il y est étranger, comment Dieu perçoit-il le mal dont l'homme est capable ? Qu'en fait-il ? C'est la célèbre question rapportée par Elie Wiesel devant un enfant suspendu à la potence d'Auschwitz-Birkenau. Où est Dieu ? Il nous faut, je crois, revenir aux textes fondateurs qui, s'ils sont des mythes, n'en disent pas moins le projet bienveillant de Dieu sur l'homme. À propos de l'homme, Dieu, nous enseigne le livre de la Genèse, expose son projet créateur avant de le réaliser. Le projet, le voici. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». C'est au premier chapitre du livre de la Genèse, verset 26. Quand il réalise son projet, la phrase devient « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme ». Verset 27 de ce même chapitre 1. L'homme est créé à l'image de Dieu. On voit que la différenciation sexuelle est constitutive de l'image de Dieu. On voit que dans cette différenciation, l'homme et la femme sont absolument égaux. Mais où est passée la ressemblance ? Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, disait-il. Et quand il s'agit de le faire, cela donne « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. » Plus je médite ce texte fondateur, plus je me dis que la ressemblance de l'homme avec Dieu, c'est son programme, sa feuille de route, et que c'est surtout le siège de la liberté que Dieu, par amour, laisse à l'homme. Tu as l'image en toi, tu peux la reproduire, tu peux ainsi ressembler à Dieu et faire le bien. Tu peux aussi rejeter cette image, refuser de la suivre, choisir la dissemblance. Alors tu choisis le mal. Et Dieu l'a voulu ainsi parce que par amour, il t'a créé libre. Les plus grands drames de l'humanité supportent cette grille de lecture. Le refus de reproduire l'image de Dieu, le bien, le beau, profondément inscrit dans le cœur de l'homme et dans sa conscience. Ce refus est souvent tout simplement le refus de Dieu lui-même. Ce refus va parfois, c'est sans doute le cas de l'idéologie nazie, jusqu'au sentiment d'être capable de soumettre Dieu, ou même de se substituer à lui. Mais revenons à Maritain. Citant saint Augustin, Dieu ne permettrait jamais le mal s'il n'était pas assez puissant et assez bon pour tirer le bien même du mal. Il espère que des maux sociaux qui nous révoltent, de l'esclavage, de la misère, du pouvoir des grands monstres qui dévorent la personne individuelle, des conditions iniques où vivent tant de créatures de Dieu, l'histoire temporelle émergera non seulement avec la cessation de ces maux, mais avec un surcroît de bien pour l'humanité, en sorte que l'esprit prenne le dessus, que l'unification du genre humain se produise sous le signe de la liberté, non d'un conformisme de troupeau, et que tous les hommes aient accès pour rien aux biens élémentaires de la vie humaine. D'un bien, Dieu tire un mal. Il y a quelques mois, je m'énervais intérieurement dans le bus contre trois personnes âgées qui décriaient une jeunesse fainéante à laquelle tout serait dû, bonne à rien, engluée dans la société de consommation. Une seule de leurs phrases sonnait juste à mes oreilles. Parlant toujours des jeunes, ils disaient « Ils n'ont pas connu la guerre ». Si l'on met de côté ces lourds sous-entendus que cette phrase pouvait présenter, si on la prend sous un aspect positif, cette phrase, elle met en lumière que du mal de cette terrible barbarie nazie, Dieu a tiré un bien en permettant que l'Europe de l'après-guerre soit une Europe de progrès pour l'homme. Puisse cette Europe continuer à l'être, continuer à faire progresser l'homme. À demain !